Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'être venu dans ce studio répondre à mes questions pour BFM TV et RMC. Vous êtes commissaire européen en charge du marché intérieur et ancien ministre de l'économie français, bien sûr. Je voudrais quand même commencer par ces images que vous avez peut-être vues à Bruxelles, de ces manifestations d'antivax qui ont dégénéré hier. Il y en a eu de nombreuses qui ont dégénéré dans toute l'Europe, mais hier soir, elles étaient d'une particulière violence avec des manifestants qui s'en sont pris directement aux forces de l'ordre. En France, il y a un député français qui s'est fait agresser aussi en marge d'une manifestation. C'était à Perpignan avec un coup de poing au visage. Est-ce que vous avez l'impression, vu justement de Bruxelles, que ça dégénère partout et que c'est une question politique plus que sanitaire ?
Non, je ne peux pas dire que ça dégénère partout. En revanche, sur les images, elles sont tout à fait sont extrêmement violentes et donc elles produisent des faits qui sont totalement inacceptables. Évidemment, je condamne le plus fermement. Les autorités belges vont évidemment s'en emparer, j'en ai aucun doute, le Premier ministre belge l'a dit du reste. Mais vous savez, on le voit, c'est vrai, ici ou là, dans nos démocraties, on le voit, on l'a vu aussi aux États-Unis, il n'en demeure pas moins que les raisons pour lesquelles ces manifestations ont lieu sont ce qu'elles sont. Le droit à manifester reste et demeure évidemment. Mais ce qui se passe est inacceptable. Et puis, vous savez, au fond, on est maintenant dans une phase où, grâce au vaccin, l'Europe est le premier continent au monde à être vacciné, grâce au taux de vaccination.
Donc c'est très élevé. Derrière nous, il n'y aura plus de raison de manifester,
Je pense sincèrement qu'on commence à voir partout en Europe, et c'est un bon signe, grâce encore une fois à la vaccination, et on a pu finalement surmonter cette vague assez incroyable Omicron, avec finalement une situation sanitaire qui a été contrôlée puisque nos hôpitaux n'ont pas été engorgés, c'était évidemment ce qu'il fallait veiller. Et donc aujourd'hui, on commence à voir partout en Europe donc une décroissance et donc un retour à la normale.
Vous pourriez dire
donc on comprend plus très bien ce que ces gens veulent. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudra les condamner.
Il faudra condamner ces violences.
Bien
Pardon,
sûr.
Mais il y a plein de choses
partout,
dans ce que vous venez de dire. Il y a des très bonnes nouvelles,
oui.
Puisque vous n'hésitez pas à dire et à parler presque du Covid au passé. Et puis, il y a quand même aussi ces questions du coup de timing. On va y revenir sur cette très bonne nouvelle. J'ai envie quand même de m'y arrêter un instant. On a tellement parlé des mauvaises nouvelles. Est-ce que vous diriez donc ce matin, comme l'OMS, il est plausible que l'Europe se rapproche d'une fin de la pandémie ?
L'OMS dit effectivement que à cause de, de cette vague de contamination tout à fait exceptionnelle qu'il y a eu en Europe à la suite à ce variant Omicron qui était très contagieux, un nombre très important de nos concitoyens européens ont donc contracté la maladie avec des symptômes relativement limités parce que tout le monde était vacciné. Je rappelle quand même que quand on va à l'hôpital à cause du Covid, dans 9 cas sur 10, c'est parce qu'on n'a pas été vacciné. Donc tous ceux qui ont été vaccinés ont pu surmonter cette vague Omicron sans trop de problèmes. Et on peut s'en féliciter. Ils sont donc immunisés. Grâce au vaccin, il n'y a pas eu de problème. Et donc aujourd'hui, effectivement, on pousse un ouf de soulagement parce que cette vague, elle va maintenant commencer à régresser, et donc on va pouvoir recommencer à réouvrir les lieux, il fallait quand même un peu se protéger les uns les autres, revenir à une vie normale. Ceci dit, je le redis, on aura évidemment d'autres variants, parce que le virus continue évidemment à prospérer, notamment dans les pays où on n'est pas vacciné, en particulier aux frontières de l'Europe, je pense en particulier à la Russie, qui est un problème très important. On le voit, c'est le pays qui est le plus atteint aujourd'hui, du continent européen dans son ensemble, de très loin. Et donc, le variant, il continue.
Vous dites, ça y est, on peut commencer, on va pouvoir commencer. Et on sent bien que vous poussez un groupe de soulagement, que vous commencez à en parler au passé. Et franchement, on ne va pas bouder notre peine. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu un décalage ? C'est-à-dire que c'est aujourd'hui même, à l'instant où on se parle, que le pass vaccinal entre en application. Il n'y a pas un problème de timing ?
Non, on est encore une fois, je le dis, le pic est... Maintenant, on le voit. Et quand il y a pic, ça veut dire qu'il faut ensuite qu'il y ait des croissances. Donc il faut gérer cette période, cette transition. Et je crois sincèrement, évidemment, moi je suis commissaire européen, donc je vois ce qui se passe dans l'ensemble des pays. On a deux phénomènes qui se conjuguent. Certains pays, parce qu'on a vu l'efficacité du vaccin et notamment pour lutter contre les variants, en particulier Omicron, certains pays décident désormais que la vaccination va être obligatoire.
C'est le cas de l'Italie, par exemple.
C'est le cas de l'Italie, c'est le cas pour les plus de 60 ans, c'est le cas de 50 ans, pardon, c'est le cas de l'Autriche. Là, pour tout le monde, pour tous les adultes, vous l'avez
vu.
Vous
trouvez que c'est plutôt pas mal comme position.
Écoutez, c'est eux qui le décident. C'est une décision des États membres, et c'est évidemment parce que ça permet de contenir les évolutions futures. Donc ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, et je le redis, il faut continuer à vacciner, et notamment les pays qui ne sont pas encore assez vaccinés. Puis on peut parler de l'Afrique, c'est un vrai sujet. Et
là, mais on intervient. Mais nous, en France, on a une position quand même un tout petit peu plus hypocrite. C'est-à-dire que vous dites, en effet, en Italie ou en Autriche, bon, bah, c'est la vaccination obligatoire. Nous, elle est quasi obligatoire. C'est de l'obligation déguisée, quand même.
Bah, vous savez, en tout cas, c'est vrai que à partir du moment où le vrai problème aujourd'hui, c'est d'éviter les engorgements dans les hôpitaux, pour pouvoir évidemment soigner tout le monde, y compris par parenthèse ceux qui ont besoin aussi d'y aller et qui ne peuvent pas y aller parce que les hôpitaux
avec
sont
en danger.
On le sait, c'est des drames, et c'est d'autres, malheureusement, quelquefois et parfois et trop souvent, également des décès parce qu'on ne peut pas les accueillir. Voilà, tout ça est à gérer. Ce qu'on sait, c'est que le vaccin fonctionne. Ce qu'on sait, c'est qu'il fonctionnera pour les futurs variants. Et par ailleurs, comme l'Europe est le premier fournisseur, fabricant de vaccins ARN au monde, nous aurons les doses. On fabrique plus de 300 millions de doses par mois, donc on aura évidemment les doses.
Et est-ce qu'on en donnera ailleurs ?
Bien sûr, on est le premier donateur aussi à travers COVAX. On va continuer, c'est très important, vous avez raison de le signaler, mais il faut aussi aider, je pense en particulier à l'Afrique, il faut aussi aider le continent africain à désormais à produire ses propres vaccins. C'est ce que fait l'Europe. Nous avons maintenant 4 usines en fabrication, à Dakar, au Sénégal, au Ghana, au Rwanda et évidemment également en Afrique du Sud.
Thierry Breton, bonne nouvelle sur le front sanitaire donc. Et puis ces questions quand même sur le front de l'économie qui est évidemment votre dossier. Je voudrais qu'on parle du pouvoir d'achat, de la question de l'inflation. Elle se pose en France cette question, mais elle se pose dans toute l'Europe. Est-ce que vous redoutez qu'on s'installe dans une montée des prix durable?
Alors d'abord, je voudrais rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs ce matin, qu'il faut toujours être prudent sur ces prévisions, j'allais dire. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, le vrai risque que les économistes attachent, à raison du reste pointé, c'était plutôt la déflation. Bon, on est maintenant finalement dans un risque d'inflation.
Oui, ça montre qu'on a quand même du mal à suivre les économistes.
Ça montre
les économistes, c'est pas mal non plus.
Il faut toujours être prudent. Mais pour autant, il faut essayer d'anticiper, évidemment, et c'est notamment le rôle de ceux, et notamment la Banque Centrale, et de ceux qui sont en charge, évidemment, de la monnaie. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une véritable inflation, 5% en Europe, on le sait, 7% aux États-Unis, la plus forte inflation aux États-Unis depuis 40 ans. En Europe, l'inflation, elle est essentiellement portée par l'augmentation des prix de l'énergie, et hors prix de l'énergie, on est à peu près à 2,3%, c'est-à-dire à une inflation à peu près contenue par rapport, encore une fois, à ce qui se passe aux États-Unis. Je le dis parce que, finalement, on voit qu'il y a une décorrélation des raisons de l'inflation par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis. C'est une inflation qui est poussée essentiellement par la consommation aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de liquidités. Et ce qui veut donc dire que la Banque Centrale Américaine a indiqué qu'elle allait vraisemblablement réaugmenter les taux d'intérêt pour limiter précisément l'inflation, avec des conséquences importantes, parce que quand on est aussi endetté, autant endetté, ça a des conséquences sur le budget des États, et notamment du budget des États américains.
Donc nous, vous ne seriez pas forcément favorable à ce qu'on fasse la même chose.
Alors qu'en Europe, on a une inflation qui est plutôt portée par les prix de l'énergie, donc on va sans doute attendre un petit peu. Il y aura une réunion très importante le 10 mars de la BCE qui va donner des indications, ça va être extrêmement important. J'ajoute que aujourd'hui, si jamais effectivement on commençait à réaugmenter les taux d'intérêt, ça finira par arriver, hein, personne n'en doute. Évidemment, compte tenu du niveau d'endettement de l'ensemble des États européens, tous les États ont dû s'endetter pour faire face à la crise.
Et bah, donc, nous, on est quand même plus endettés.
Tous. L'Allemagne a dû s'endetter, l'Italie a dû s'endetter, la Suède a dû s'endetter, les Pays-Bas ont dû s'endetter, les frugaux ont dû s'endetter, tout le monde a dû s'endetter. C'est vrai que nous, on a une dette supérieure, ça veut dire qu'il faudra la rembourser, ça veut dire qu'on est en train de réfléchir, de discuter maintenant sur la refonte des règles, ces fameuses règles...
Les règles budgétaires.
Voilà, du pacte de stabilité et de croissance.
Bon, il a volé en éclats, hein.
Bah, aujourd'hui, en matière de dette, c'est certain, puisqu'aujourd'hui, il était limité à 60% et les dettes, elles sont à plus de 100%.
Vous allez devoir réinventer des règles.
Non, il va falloir sans doute qu'on fasse la différenciation entre des dettes qui vont être nécessaires, qui ont été nécessaires et qui seront nécessaires, notamment pour atteindre le zéro carbone, donc il faut investir massivement dans l'énergie, dans le numérique, dans la défense aussi. Il faut investir dans notre défense. Donc peut-être que ces dettes-là pourront être comptabilisées autrement. Il faut retrouver une capacité à réajuster nos niveaux d'endettement. C'est la discussion qui a lieu aujourd'hui à Bruxelles. Elle est très importante.
La réponse sur la question de l'inflation, est-ce que c'est aussi celle des salaires? Alors nous, en France, on a cette grande discussion aujourd'hui sur la hausse des salaires. Quand vous voyez que l'Allemagne a décidé d'augmenter le SMIC, ça paraît assez contre-intuitif par rapport à l'image qu'on a de l'Allemagne. Pourquoi est-ce que la France le ferait pas plus?
Pas parce que l'Allemagne partait plus bas que la France. L'Allemagne était nettement inférieure à la France en matière de SMIC. Donc il y avait un rattrapage. Ça faisait partie du reste de la politique qui avait été annoncée par Olaf Scholz. SPD, socialiste. Oui, mais c'était attendu. Parce que l'Allemagne était très en retard par rapport aux autres pays européens. Donc ce rattrapage, il va avoir lieu. Maintenant, vous avez raison. Il y a vraiment un vrai sujet aujourd'hui de ressenti de pouvoir d'achat réel. Essentiellement, je le redis, d'abord, ce qui pèse le plus sur les ménages, et notamment les ménages qui sont les moins favorisés, c'est l'augmentation de l'énergie. Et là, il faut vraiment accompagner très vite cet impact, qui est un impact, je dirais, mondial, sur ceux qui en ont le plus besoin, d'où nous notre recommandation, qui a été suivie d'effet, du reste en particulier en France, c'est d'avoir des chèques spécifiques pour accompagner. Il faudra le faire encore vraisemblablement jusqu'à l'été, je pense, parce que on est encore...
Est-ce qu'il faudrait peut-être remettre, on le sait bien, en octobre dernier, au moment des pics, notamment du prix de l'essence, il y a eu cette fameuse prime inflation lancée par Jean Castex. Est-ce que vous dites, il va falloir qu'il en remette une, quoi?
Il faut le suivre très attentivement, et si c'est nécessaire, il ne faudra pas hésiter à le faire.
D'accord.
Et vous voyez, j'ai été ministre des Finances, donc je suis très attentif à cela. Il faut passer ce cap, parce que c'est
vraiment... Donc une nouvelle prime de 100 euros.
On verra, ça va dépendre encore une fois, mais je pense qu'il faut vraiment être très attentif à cet aspect des choses.
Sur la question du pouvoir d'achat, vous le disiez à l'instant, l'Europe soutient. Il y a eu notamment une chose que l'Europe a permis... ou permettrait, puisque ça n'a pas été utilisé par le gouvernement français, c'est de faire baisser la TVA sur l'essence. Vous le savez, en France, la TVA sur l'essence, elle est très élevée. Elle pourrait passer à 5,5 parce que, si je comprends bien, l'Union européenne dit, écoutez, on peut considérer l'essence comme une donnée de première nécessité, c'est-à-dire ce qui permet de rentrer dans le panier de la TVA à 5,5. Pourquoi la France ne le fait pas?
C'est un serpent de mer. Il y a les taxes, effectivement, toutes les taxes qui sont portées par les carburants fossiles en particulier. On voit que l'impact, finalement, il est très réduit pour le budget et notamment pour les consommateurs par rapport à d'autres solutions telles que celles qui étaient évoquées, qui sont plus directes. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment nécessaire, c'est vraiment d'aider, notamment ceux qui en ont les plus besoins. C'est en gros au moins 25% de la population française qu'il faut vraiment aider. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace plutôt que de faire quelque chose d'uniforme, y compris pour ceux qui en auraient moins besoin.
Et en France, il y a un certain nombre de questions sur la fiscalité qui sont en train de devenir des vraies questions dans le cœur de la campagne, et notamment la question des droits de succession. Alors la dernière en date à avoir pris position, c'est Valérie Pécresse qui veut qu'il n'y ait aucun droit de succession jusqu'à 200 000 euros de passation. Quelle est votre philosophie à vous sur les droits de succession?
Là encore, c'est vraiment des décisions qui sont des décisions, et heureusement, du reste, c'est une bonne chose.
Vous avez toujours votre double casquette.
Oui, je suis obligé, parce qu'encore une fois, ce sont les institutions. Je suis obligé de les respecter, particulier pendant les campagnes électorales. C'est normal, c'est des institutions. J'ouvre une parenthèse, vous savez, un commissaire européen, il est élu, il est nommé, il est élu par le Parlement pour 5 ans. C'est aussi quelque chose qui protège son action dans certains pays. On voit des pays qui changent leur régime politique. Ça les protège aussi dans leurs actions. C'est les institutions qui ont voulu ça. La contrepartie, c'est qu'effectivement, nous ne participons pas aux campagnes nationales. Il n'en demeure pas moins que c'est vrai que le problème de la transmission est un sujet qui est un sujet important. Dans des moments où effectivement il faut aider les nouvelles générations, ces questions sont des questions qui sont, à mon avis, légitimes à se poser.
Donc on ne saura pas ce que vous en pensez, mais dites en tout cas c'est une question importante.
C'est à partir du moment où je dis qu'elles ne sont pas légitimes, je dis déjà quelque
d'ailleurs,
chose.
D'ailleurs, je rebondis juste sur ce que vous veniez de dire à l'instant, Thierry Breton. On le sait bien, vous êtes en effet le commissaire européen, donc vous n'êtes plus rattaché spécifiquement à la France. Vous y êtes pour 5 ans. Il y a cette campagne. On sent bien que vous avez quand même aussi une proximité aujourd'hui. Emmanuel Macron régulièrement vient vous interroger.
Oui,
si vous demandez de revenir dans un gouvernement, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Est-ce que si la France vous demandait de revenir?
C'est absolument pas la question. Merci de me poser la question. C'est très.
C'est pas pour vous flatter, hein, c'est simplement pour savoir.
Merci, mais j'espère être utile là où je suis. Je porte depuis le début de mon mandat la régulation des GAFA. On y arrive.
Justement,
je porte le fait qu'il faut avoir augmenté la défense. Je suis aussi commissaire à la défense. On y arrive. Je porte le fait qu'il faut maintenant être autonome en matière de semi-conducteurs. On y arrive. J'ai beaucoup de sujets. Et puis le fait d'avoir finalement cette connaissance à la fois industrielle, politique et aussi européenne est peut-être utile, en tout cas là où je suis. En tout cas, je m'y
pense. Bien, pour l'instant, en tout cas, vous êtes à Bruxelles. Thierry Breton, vous espérez l'adoption d'un certain nombre de normes justement pour réguler notamment Internet. Et vous avez dit cette phrase: désinformation, harcèlement, tout ce qui est interdit dans la vie réelle le sera désormais sur Internet. Est-ce que vous allez vous en donner les moyens? Ça, c'est la norme, c'est la décision européenne, mais ça va être quand même aux États d'appliquer.
Alors d'abord, ce qui est très important, c'est que c'est un sujet, effectivement, on le rappelle, j'y travaille depuis le premier jour, je suis commissaire, donc avec mes équipes, on a donc travaillé sur deux textes législatifs, l'un qui régule les aspects économiques. On sait bien, nos téléspectateurs le savent, ces grandes plateformes, certaines sont tellement importantes qu'elles sont prédatrices, elles sont en situation de monopole et c'est inacceptable, donc on va les réguler, on va réguler l'espace économique dans lequel elles opèrent. Et le deuxième, c'est ce qui concerne la vie de tous les jours, on le voit bien. Vous savez, nos enfants, notamment les adolescents, passent plus de 6 heures par jour, ce qui est absolument incroyable, sur leur
une lutte quotidienne, Thierry.
Une lutte quotidienne, je sais, oui. Donc, donc c'est trop, bien sûr. Et en plus, c'est bien souvent totalement incontrôlé. On ne sait pas ce qu'ils font, il n'y a pas de contrôle.
Vous allez imposer?
Bien sûr, et c'est un travail, donc on l'a fait avec mes équipes, on a proposé donc ces deux textes.
Et vous ne pouvez pas mettre un gendarme derrière chaque téléphone portable?
Alors, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, ce qui était interdit dans l'espace physique ne l'était pas dans l'espace informationnel, et c'était bien le problème. Et bien désormais, tout ce qui est interdit dans l'espace physique le sera aussi dans l'espace informationnel. Et c'est effectivement ce texte, il a été voté, donc on a deux co-législateurs au niveau européen. Il fallait qu'il soit évidemment au niveau européen. Les plateformes Internet, ça n'a pas de frontières, donc c'était vraiment au niveau européen qu'il fallait traiter, c'est pour ça que je m'en suis emparé. On l'a donc proposé aux États membres, ils ont voté à l'unanimité, c'était avant Noël, et au Parlement européen, ça a été voté à une très très large majorité la semaine dernière. Maintenant donc, la position, il y a eu quelques amendements et des États membres et du Parlement, on va donc, ce qu'on appelle le trilogue, on se met ensemble, on va finaliser ça sous la présidence française.
Donc ce sera fait avant la fin de la présidence française.
Alors vraiment, on y travaille et j'ai vraiment vraiment confiance qu'on y arrive pour ajuster maintenant les points de vue. Et à ce moment-là, ça deviendra un texte d'application directe. C'est ce qu'on appelle un règlement dans notre jargon.
Ça n'aura même pas besoin d'être
traduit ou transposé d'application directe. Immédiatement, il va s'appliquer aux plateformes. Elles vont avoir des obligations. C'est fini la haine en ligne. C'est fini les discours haineux. C'est fini les atteintes aux personnes. C'est fini la vente des produits contrefaits. Et si jamais elles ne le font pas, elles auront des amendes. Ça peut aller jusqu'à plusieurs milliards d'euros, 5, 6, 7 milliards d'euros en fonction du chiffre d'affaires, 6% à 10% du chiffre d'affaires. Et si elle continue, on aura aussi, nous, la Commission européenne, la possibilité de leur interdire d'exercer en Europe pendant 15 jours, pendant un mois.
Parfois, je me demande si on ne sait pas un tout petit peu partager les tâches au niveau de la géographie mondiale, c'est-à-dire que finalement, les Américains, les Chinois, les Japonais produisent, les GAFAM et tout ça, et nous, on en est réduit à être le gendarme. C'est-à-dire qu'eux, ils font et nous, on régule.
C'est effectivement dans le narratif ce que ceux qui n'aiment pas l'Europe essayent de dire. Et pourtant, voyez-vous...
Moi, je ne suis pas là-dedans.
Non, c'est pas vous.
Franchement, il y a ceux qui produisent et puis il y a nous, on régule. On aimerait bien produire quand même.
Et pourtant, la deuxième entreprise, la plus haute capitalisation européenne, c'est une entreprise technologique qui fournit tout ce qu'il faut pour fabriquer les semi-conducteurs, les puces qui sont à la base de ça. Elle est européenne. Elle est la deuxième capitalisation européenne. C'est une fois et demie une société comme Intel. Donc bien sûr que non, que l'Europe n'est pas en retard. Bien sûr que oui, que l'Europe est là. Mais on aimerait tellement le dire. Mais voyez-vous, moi je suis de ceux qui disent la réalité technologique n'est pas celle que certains voudraient.
Les semi-conducteurs, on s'est quand même rendu compte à un moment qu'on en avait besoin et qu'on en avait pas.
Parce qu'on les produisait, même si on fabriquait ces robots, même si on concevait la recherche en Europe, on les fabriquait en Asie. C'était trop, on est allé trop loin. Et c'est la raison pour laquelle je me bats pour qu'on réinvestisse en Europe. On va multiplier par 4, Apolline de Malherbe, par 4 la production dans les 10 ans qui viennent en Europe, sur le territoire européen. On est du reste en train de finaliser ce qu'on appelle le Chip Act européen, je veux dire en français, c'est pour ça. C'est-à-dire la législation européenne qui va être proposée donc début février, qui va nous permettre d'accueillir, de financer, de cofinancer des investissements absolument majeurs en Europe pour qu'on ne soit plus dépendant effectivement de l'Asie sur la fabrication des
Je suis assez frappé, Thierry Breton, que de vous-même, vous avez à plusieurs reprises insisté sur l'idée qu'il fallait investir davantage dans la question de la défense. On sait qu'il y a ce contexte évidemment avec avec ce qui se passe en Ukraine. Et on apprend dans le Financial Times que les États-Unis négocient avec le Qatar pour que le Qatar puisse envoyer du gaz à l'Europe si l'Europe se retrouvait privée du gaz russe. C'est les Américains qui négocient pour nous auprès du Qatar pour qu'on ait du gaz.
Non mais les Américains, on est très sensible au fait qu'ils se préoccupent de l'Europe. On avait l'impression du reste qu'ils voulaient plus s'en occuper, puisqu'ils nous disaient qu'ils ne s'intéressaient plus qu'à la Chine. On est très sensible. On n'a pas besoin d'eux pour aller nous approvisionner en gaz, en énergie. Les contrats, c'est vrai qu'on dépend aujourd'hui en Europe pour 30 à 35% du gaz russe. C'est vrai qu'on a beaucoup d'autres sources d'approvisionnement. On en a en particulier en Afrique du Nord. On en a effectivement dans les Émirats. Je sais que les Américains aimeraient aussi nous en vendre, notamment du gaz liquide, on peut le faire. Voilà, il y a beaucoup d'autres sources d'approvisionnement.
Si je comprends bien, vous dites un peu aux Américains, mêlez-vous de ce qui vous...
On est dupes de rien. Et voyez-vous, et nous sommes extraordinairement unis aujourd'hui, tous les Européens, sur ce qu'il faut faire, notamment vis-à-vis de la Russie. On n'est absolument pas naïfs, on voit parfaitement ce qui se passe. Et je crois
et
que
vous négociez directement
et on parle
avec le Qatar, avec les Russes,
bien entendu, et on parle avec qui on doit parler.
Thierry Breton, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Commissaire européen en charge du marché intérieur, il est 8h53.